Huitième partie. Septembre. Dans tous les cas, l'espérance mène plus loin que la crainte. Junger. Chapitre 76. Je connais le générique de Plus belle la vie par cœur. Chaque soir, quand il débute, je lutte pour ne pas le chanter. La Julia du début d'année doit bien se marrer en me regardant. L'épisode de ce soir est important. On va enfin connaître le visage du prêtre qui fait battre le cœur de Mélanie depuis longtemps. La tension est à son comble. Les yeux des résidents rivés à l'écran et les mains crispées sur les accoudoirs. Comme chaque soir, Greg et moi sommes assis dans la dernière rangée de fauteuils. Exceptionnellement, Marine est présente. Greg lui a promis une surprise si elle venait. À l'écran, Mélanie remonte le quai de la gare en prenant tout son temps. Il faut faire durer le suspense. Les spectateurs n'attendent que depuis 6 mois. Elle demande à un contrôleur si c'est bien le train en provenance de Paris qui va arriver.
« Elle a dit quoi ?»
demande Arlette.
« Chut !» râle Léon, qui, depuis que j'ai eu le toupet de contrarier ses plans, s'assoit au premier rang pour être le plus possible éloigné de moi.
Plus loin, il est dans l'écran. Le train entre en gare. Mélanie sort un mouchoir, Louise aussi. Changement de scène. Samia pleure, car son mari, Boer, ne la croit pas quand elle lui dit que son ex est complètement folle et qu'elle l'a menacé d'enlever leur bébé. Elisabeth s'insurge.
« Moi, à sa place, je divorce sur le champ. »«
Moi, à sa place, » réponds-je, « je lui arrache les dents une à une et je les lui fais bouffer. » Plusieurs résidents se retournent et me regardent bizarrement. Je prends peut-être les choses trop à cœur. Retour sur le quai de la gare. Mélanie vérifie sur son téléphone le numéro du wagon dans lequel se trouve Luc. Père Luc pour les intimes. Les portes s'ouvrent, un pied s'engage, gros plan sur la chaussure noire. Changement de scène. Greg n'arrête pas de remuer la jambe. « Ça va ?» je m'enquiers.
« Ça va. J'ai juste hâte de voir à quoi il ressemble. »
À la télé, Barbara se demande si elle doit avouer à Ahmed qu'elle l'a trompé. Pierre secoue la tête.
« Il ne faut jamais avouer ce genre de choses. Cela ne sert qu'à soulager sa conscience et à faire du mal à tout le monde. »
Elisabeth prend un air effaré. Elle ouvre la bouche pour rétorquer quand l'image revient sur Mélanie. C'est le moment. On va enfin découvrir le visage de Luc. La chaussure noire se pose sur le quai, la caméra remonte, ses jambes, ses mains, son cou. Alors, à quoi il ressemble le prêtre ?
Qu'est-ce qu'il ressemble à Greg ?
S'exclame Louise quand son visage est dévoilé. Je regarde Greg, puis l'écran, puis Greg, puis l'écran. Je n'en crois pas mes yeux. Marine non plus, si l'on en juge sa bouche grande ouverte. Tous les résidents ont désormais les yeux rivés sur Greg. Lui, il sourit.
« C'est toi ?» articule Marine.
« Eh oui, c'est moi, » crâne-t-il.
« Mais quand ? Comment ? Raconte ! » je m'exclame. Les images continuent de raconter leur histoire sur l'écran. Mais celle qui intéresse désormais tout le monde, c'est celle de l'animateur de maison de retraite qui apparaît dans Plus belle la vie.
« Vous vous souvenez de ma semaine de vacances ? Eh bien, j'étais à Marseille. J'ai passé le casting en début d'année, c'est pour ça que j'avais posé 2 jours. Et ils m'ont pris pour le rôle du prêtre.
« Tu vas devoir y aller souvent ?» s'inquiète Marine.
Il rit.
Je ne suis présent que dans 2 épisodes. Désolée de gâcher le suspense, mais Luc est juste venu dire en face à Mélanie qu'il ne se passerait rien entre eux.
Elisabeth se met à pleurer.
Pourquoi pleure-t-elle ?
Grogne Léon.
Elle préférerait que le prêtre vive dans le péché ? Cela n'a rien à voir,
renifle la vieille dame.
Je suis triste, car Greg va nous quitter, maintenant qu'il est une star.
Pierre prend sa femme dans ses bras et la réconforte. Lucienne lance un regard noir à Greg. Tout le monde attend sa réponse. Il ne devait pas s'attendre à cette réaction.
« Ben, justement, je voulais vous dire, » dit-il en baissant la tête. « J'ai reçu un appel de Tarantino ce matin. Il me veut pour le premier rôle de son prochain film. Il m'a laissé le temps de la réflexion, mais évidemment, je n'en ai pas eu besoin. Ce genre de choses, ça ne se réfléchit pas. »«
Qu'est-ce qu'il a dit ?»
demande Arlette.
Louise pose sa main sur sa bouche. Marine a l'air aussi ahurie que moi de constater à quel point ils sont crédules. On leur ferait croire qu'un dinosaure vient dîner, qu'il se demanderait quel plat lui préparer.
Je lui ai donc répondu que c'était très gentil, mais que je préférais continuer à prendre soin de mes petits résidents.
Les visages s'éclairent.
« Vous êtes un homme bon, Grégory, » affirme Pierre.
« Et une star en plus !» ajoute Lucienne.
Greg fait le pan. « Vous voulez pas renommer les Tamaris au nom de Greg tant qu'on y est ?» lâche Marine en riant.
« Et pourquoi pas ?» réplique Gustave. « Maison de traite, Greg, ça sonne bien !»« En tout cas, nous sommes très fiers de vous, mon petit, » déclare Louise. « C'est une belle aventure que vous avez vécue là, et nous la partageons un peu avec vous. »
Greg adresse un sourire à Marine. « Heureusement que certains sont fiers de moi. » Pour toute réponse, elle prend son visage entre ses mains et colle sa bouche contre la sienne. Les résidents sont médusés. C'est la première fois que le couple se dévoile en public. Tandis que Marine desserre son étreinte, Rosa se tourne vers moi, l'air circonspect.
« Je n'ai pas tout saisi. Elle est comédienne, elle aussi ?»
Chapitre 77. Marion a mis mes draps préférés, les blancs avec des broderies. Me retrouver dans cet appartement parisien dans lequel j'ai vécu plusieurs mois est tellement étrange. J'ai l'impression que cette époque appartient à une autre vie. Et en même temps, les automatismes reviennent comme s'ils n'avaient jamais cessé. Je m'assois sur le côté gauche du canapé, comme avant. « Alors, Paris t'a manqué ?» demande Marion en insérant une dosette de café dans la machine. « Franchement, pas une seconde. La seule chose qui me manque, c'est un Starbucks. Mais ça pèse pas lourd face à l'océan. » Elle ferme les yeux et penche la tête en arrière. « L'océan ? Va vraiment falloir que je vienne te voir. Tu ne seras pas trop triste de revenir vivre ici, quand même ?» Sa question me gifle. Rien n'est encore fait, je n'ai même pas encore passé l'entretien. Non, mais je t'ai bien vendu. Je suis sûre que ça va le faire. J'ai beaucoup pensé à cette opportunité depuis que Marion m'en a parlé. Plusieurs fois, j'ai attrapé mon téléphone pour lui demander d'annuler. À chaque fois, j'ai raccroché avant la première sonnerie. Je n'ai pas envie de revenir travailler à Paris. Mais si on me le proposait, je n'aurais pas envie non plus d'aller travailler à Rome, à Bordeaux ou à Biarritz. Ce dont j'ai envie, c'est continuer à travailler au Tamaris. Or, Anne-Marie a été claire. Dans un mois, mon contrat s'arrête. Je n'ai pas le choix, et le poste à pourvoir ne me semble pas si horrible. « Cache ta joie !» grommelle Marion en me tendant une tasse fumante. « Si, si, je suis emballée, je t'assure. La seule chose qui m'ennuie un peu, c'est que je vais devoir m'éloigner à nouveau de ma famille. Ça y est, t'as tout dit à ta mère ? Pas encore, mais je me sens de plus en plus prête. Plus que quelques verrous à faire sauter et on y sera. Du coup, ça va faire « Coucou maman, j'ai passé 8 mois à quelques mètres de toi sans te le dire, et maintenant que tu le sais, je repars. Salut !» Elle comprendra, j'en suis sûre. J'espère. Elle me sourit tendrement. « Et la vraie raison pour laquelle tu es retournée à Biarritz, tu veux en parler ?» murmure-t-elle. Je hausse les épaules en silence. Elle comprend que la réponse est négative. Alors elle enchaîne sans transition. « J'ai rencontré quelqu'un. »
« Mais non. Raconte. »
Marion glousse et me confie son coup de foudre pour Issa. Je me suis cassé une dent en mordant dans un sandwich. Pas une du fond, sinon ce ne serait pas drôle. Non, une de devant. Tu m'aurais vu. On aurait dit Zézette et Pouzix. C'est bien simple, j'aurais pu faire débander un god. Mon dentiste était absent, c'est son remplaçant qui m'a sauvé la vie. C'était Issa. Il a connu l'intérieur de ma bouche et de mon nez avant de me connaître. Ce mec ne me quittera jamais. Elle rit. Je la regarde et je suis frappée en me rendant compte qu'elle ne m'a pas manqué. Comme si elle avait été présente en filigrane. Comme si savoir que je pouvais l'appeler à n'importe quel moment, qu'elle était là, équivalait à l'appeler vraiment. Marion m'a recueillie un soir avec mes valises dans les mains et d'autres sous les yeux. Elle n'a pas posé de questions. Elle a enfilé des draps blancs brodés sur son canapé et m'a préparé les pâtes les plus infâmes que j'ai mangées de ma vie. Elle ne m'a jamais demandé combien de temps j'allais rester ni fait sentir que je gênais. Elle ne m'a pas jugée quand je rentrais au petit matin, parfumée d'alcool et de l'homme de la nuit. Elle mettait des préservatifs dans mon sac. Elle affirmait à ma mère que j'allais bien quand elle s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles. Elle m'a encouragée à partir à Biarritz, alors que j'allais lui manquer. Des copains, j'en ai vu passer. Certains en comptaient, beaucoup. La bande du lycée, les copines de fac, les potes de soirée. Il y a eu des déménagements, des disputes, des caractères qui évoluent, des opinions aussi, des messages qui se font plus rares et des souvenirs qui s'estompent. Mais avec Marion, je n'ai aucun doute. On s'aidera à ajuster nos perruques quand on aura 80 ans.
Et toi alors, toujours décidée à rester seule jusqu'à la fin de tes jours?
Je mets trop de temps à répondre, c'est louche.
Toi, t'as rencontré quelqu'un,
jubile-t-elle. Je secoue la tête, hausse les épaules et répète « non » deux fois. Ça aussi, c'est louche. Marion vient s'asseoir à côté de moi et me regarde droit dans les yeux avec un sourire en coin. Pire que le supplice de la chèvre. Je me marre.
« Je veux tout savoir », dit-elle.
Il n'y a pas grand-chose à dire. Le petit-fils d'une nouvelle résidente me drague et ça ne me déplairait pas si les circonstances étaient différentes.
« Quelles circonstances ? »
fait-elle en fronçant les sourcils.
« Toutes les circonstances.
Je suis en phase de reconstruction. Je ne peux pas prendre le risque d'être blessée encore une fois. De toute manière, après Marc, je crois que je n'arriverai plus à faire confiance. En plus, c'est le petit-fils d'une patiente. Et je suis partie à Biarritz pour me retrouver. Je ne dois pas me laisser distraire, et puis...
La liste est encore longue ?
Sérieusement, Julia, tu sais que je t'adore ! Mais je n'ai jamais entendu de raison aussi débile pour repousser quelqu'un. Y a quoi encore ? L'alignement des planètes n'est pas favorable ?
Je hausse les épaules, vexée.
Je n'ai aucune raison de mentir. Je ne vois pas pourquoi je trouverais des prétextes.
Elle me bouscule doucement avec son épaule.
C'est toi la psy, ma biche !
Mais on dirait que tu penses que rien de bien ne peut arriver. La vie n'est pas faite que de drames, tu sais.
Je reste interdite quelques instants. Sa dernière phrase vient de me percuter violemment. Elle a raison. Inconsciemment, je suis persuadée que j'ai épuisé mon quota de bonheur et que le décès de mon père a ouvert le bal des épreuves que j'aurai à surmonter. Pire, mon angoisse n'est jamais si forte que quand tout va bien. Comme si ça allait forcément se payer. Ce n'est pas pour rien que, dernièrement, j'ai souvent en tête cette citation extraite du château de ma mère de Pagnol, qui m'avait déjà marqué enfant. « Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. » Je m'endors quelques heures plus tard au son presque oublié de la nuit parisienne, heureuse d'avoir retrouvé mon amie, anxieuse pour l'entretien du lendemain, et avec l'impression d'avoir enfilé des lunettes sur des yeux qui n'y voyaient plus très clair.
Chapitre 78. Jacques Martin m'observe attentivement tandis que j'obéis à sa requête. Je me présente en quelques phrases. J'ai l'impression d'être un paquet de lessive qui doit convaincre les clients qu'elle lave mieux que ses concurrentes. Dans la salle d'attente du directeur de la clinique du cheveu, deux autres personnes attendaient. J'ai perdu des points dès mon entrée dans son bureau. Je crois bien avoir eu un mouvement de recul en découvrant qu'il était chauve.
Pourquoi voulez-vous travailler à la clinique du cheveu ?
Parce que je suis passionnée par les cheveux depuis toute petite, je m'en suis même fait greffer une touffe sur le cœur. Une autre question ?
L'accompagnement des personnes en souffrance est ma spécialité, et je pense que les personnes qui perdent leurs cheveux peuvent réellement en souffrir. Vous les aidez sur le plan physique, en leur greffant des cheveux, je peux les aider sur le plan psychologique. En leur apportant l'écoute et la compréhension dont ils ont besoin.
Il sourit et croise les bras.
Quelles sont vos trois principales qualités ?
Je sais me défendre avec un couteau à bourron, je peux me bloquer le dos en faisant de la gymnastique douce et je suis incollable en plus belle la vie.
J'ai un sens de l'écoute très développé. Je suis patiente et organisée. Il note ma réponse au dos de mon CV et poursuit.
Nos clients sont souvent des gens pressés. Qui ont une vie très remplie. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des rendez-vous aux horaires de monsieur et madame tout le monde. Êtes-vous disposée à travailler à des heures peu conventionnelles ?
Peu conventionnelles ?
Parfois tôt le matin, parfois tard le soir, quelquefois le week-end. On le sait rarement à l'avance. Le mot d'ordre de la clinique du cheveu, c'est « on s'adapte ». Êtes-vous prête à ne pas compter vos heures et à être flexible ?
Êtes-vous prêt à ajouter des chiffres à mon salaire et à me le régler quand je veux ?
Je suis capable de m'adapter quand je suis passionnée.
Il sourit. Le paquet de lessive commence à lui plaire.
L'entretien se poursuit au rythme des questions habituelles.
Quelle est votre plus belle réussite professionnelle ?
J'ai gagné au Scrabble contre Lucienne.
Envisagez-vous d'avoir des enfants dans les 10 prochaines années ?
Une quinzaine, si possible, en une seule fois.
Quelles sont vos passions ?
Dormir, faire des ronds avec la fumée de mes cigarettes et les reportages sur les marmottes.
Je me demande ce que je fous là.
Exactement comme le jour de mon arrivée au Tamaris.
Peut-être un signe ?
Jacques Martin rentre la mine de son stylo et cale son dos dans son fauteuil.
L'entretien semble toucher à sa fin.
Une dernière question, mademoiselle Rimini.
Vous m'avez dit que votre contrat arrivait bientôt à son terme.
Je vois qu'auparavant, vous avez travaillé à la clinique esthétique des Buttes.
Pourquoi en êtes-vous partie ?
Parce que mon père est mort, que mon mec a préféré chouchouter son ordinateur plutôt que sa copine malheureuse, que ma grand-mère a disparu suite à un AVC et qu'il fallait absolument que je quitte Paris avant de me taper tous ses habitants et la Tour Eiffel.
Je réfléchis à la meilleure réponse quand il recule son siège et se lève.
Merci d'avoir pris le temps de venir me rencontrer, dit-il en me tendant la main.
Je vous recontacterai dès que j'aurai pris une décision.
Je lui serre la main et me dirige vers la porte en sentant mon sang se figer dans mes veines.
Bordel ! J'ai pensé la dernière tirade à voix haute.